icône pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
Ou non, parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Le personnage principal, dit-il, c'est la mélodie existentielle du film, son cœur, sa musique. Et son voisin, ce matin, lui aussi, cinéaste, pourrait dire la même chose. Deux cœurs battants dans deux films vibrants sur notre affiche aujourd'hui. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un cinéaste israélien, un homme révolté, mène deux combats contre la mort de la liberté dans son pays et contre celle de sa mère. Bonjour Nadav Lapid.
Bonjour.
Voici ce résumé très sommaire de votre nouveau film, Le Genou d'Aed, tourné aussi vite qu'il respire en 18 jours. Prix du jury à Cannes, il sort mercredi prochain chez nous. J'ai essayé, dit-il, de faire un mélo sans violon. Eh bien, c'est réussi. Bonjour Mathieu Amalric.
Bonjour.
Serre-moi fort, votre septième film pour le cinéma suit une femme qui s'en va dans un espace-temps, passé, présent, futur. Elle, c'est Vicky Krieps. Et le film vient tout juste de sortir. Tout comme La Boîte Noire, Le Braquage du Siècle, Délicieux, ou La Nuit des Rois que nous avons vu. Et enfin, bien sûr, un dernier adieu à Jean-Paul Belmondo. On va dire que c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Ma shetiru hakol haya be'emet. Kol ha'meraot karu, rak simu lev le'signon. בסוף ההקרנה אנחנו נהיה פה לשמוע שאלות ולנסות לתת תשובות, למרות שכידוע אין תשובות. אמא שלי שכותבת איתי את הסרטים לסרטים שלי, תמיד אומרת, בסוף הגיאוגרפיה מנצחת.
Le prix du jury va conjointement
à
Le Genou d'Ahed.
Cher jury, pouvez-vous nous redonner le nom du deuxième ex-aequo ?
Oui. Merci, le prix du jury ex-aequo est aussi attribué à Memoria de Apichatpong Veracetakul.
Alors dans un premier temps, je crois que vous allez partager cette palme parce que c'était pas prévu cet ex-aequo. Évidemment, vous en aurez une chacun.
Oui, Nadav Lapid, vous l'avez enfin récupéré, cette palme physique, celle de la mise en scène. C'est un très beau prix à Cannes. C'était important de rapporter cette récompense en Israël alors que le film, le vôtre, n'a reçu aucun denier de l'État, aucun argent de l'État.
Oui, enfin, je crois que c'était important parce que les films étaient déjà tellement explosifs en Israël, tellement polémiques avant que quelqu'un même l'avait vu. qu'il fallait, on était presque obligé de retourner des Cannes avec quelque chose dans la main.
Une
preuve pour justifier au moins ce bruit, cette tempête, ce scandale, cet ouragan.
L'État, vous faites dire à votre interprète de synonyme, le film précédent, État méchant, abominable, odieux, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Effectivement, c'est chargé. La critique est chargée.
Oui, je pense qu'ici, on utilise encore quinzaine de pages du dictionnaire pour décrire l'État. La critique est chargée, en même temps, je pense que c'est rempli aussi de l'intimité avec l'État, de relations de à la fois affectives et un rejet total et absolu. Bon, c'était ma vision à l'époque que j'ai fait les films. C'est ma vision aussi aujourd'hui.
C'est vrai qu'en Israël, il y a une loi qui interdit le financement d'une œuvre jugée infidèle à l'État.
Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y avait cette proposition de loi à l'époque que le film a été fait. Ça s'appelait la loi de la fidélité ou de la loyauté. D'interdire le financement de films qui critiquent le pays.
Et la ministre de la Culture a changé ceci depuis la sortie du film, alors qu'elle est bien présente dans le film.
C'est juste.
Le genou d'Aed, un film épidermique, vibrant, je le disais, tourné en 18 jours. L'histoire de Y, un cinéaste israélien qui arrive dans un village reculé du désert pour la projection de son film. Celle qui l'a invité est une fonctionnaire du ministère de la Culture qui lui demande de signer un formulaire. On va écouter un extrait qu'on a doublé en français pour mieux le comprendre. Il y a une liste de sujets au choix, des sujets variés. Vous devez cocher vos sujets et s'ils n'y figurent pas, les indiquer. Vous auriez déjà dû le signer pour qu'on autorise la séance, sinon on ne vous paiera pas.
Quel sujet ?
Il y en a plein.
Mais par exemple,
les forces de la nature, la mer, immigration, mixité sociale, diversité dans notre société, c'est un peu pareil. Judaïsme, famille.
Il y a l'amour.
On peut l'ajouter.
Et le sexe. Et l'avilissement de l'esprit de ce pays qui applaudit à son propre abrutissement. C'est un peu le sujet du film de ce soir.
Écoutez, ce n'est pas... Ces formulaires, j'en suis pas fier.
Continuez.
Ça m'embarrasse. Ils vont beaucoup plus loin qu'avant. Ils se mêlent de tout pour imposer les sujets qui leur tiennent à cœur.
Ils n'aiment pas les opinions différentes des leurs.
Non.
Bon.
Ce soir, j'apporterai le formulaire.
Et les autres ? Cinéastes, écrivains, intellectuels ?
Quoi ?
Ils signent ?
Tout le monde signe. À partir de ce qui semble être un détail, s'engager à n'aborder qu'une liste restreinte de sujets dans votre film Genou d'Aed, Y va focaliser sa révolte là-dessus. C'est la goutte d'eau et c'est une histoire qui vous est arrivée, Nadav Lapid.
Oui, enfin, c'est basé sur une histoire qui m'est arrivée printemps 2018, en quelques mots, parce que tout a été déjà dit et dans cet extrait. Non, mais à quelques mots, j'étais contacté par fonctionnaire ravissante, rempli de vivacité, dévoué à son travail, d'amener l'art un peu partout, même au bout du désert. Pour aller présenter là-bas un de mes films précédents, l'institutrice, et à la toute fin, après qu'on a passé une trentaine de minutes splendides au téléphone, elle m'a juste demandé de signer ses formulaires, et à partir d'ici, ça enclenchait la suite.
Et ce type, ce réalisateur, Y, il est très arrogant, il est très agressif avec tout le monde. C'est un homme révolté, il en veut à son pays, à cette fille, à ce système, à lui-même.
Oui, je pense que ce type, c'est un peu... Pour moi, d'une certaine manière, les films portent sur une société qui vous propose que des mauvais choix. Et il y a donc le chemin de la collaboration en étant sympathique, souriant, agréable, et quelqu'un de bien, etc., etc. Et il y a le chemin du rejet, de la résistance, de la bataille permanente. Et vous passez votre vie dans un état de conflictuel. Et vous avez raison, mais à force d'avoir raison tant de temps, vous devenez mal.
Votre mise en scène, je le disais, elle est vibrante. C'est-à-dire que vous suivez... Chaque geste de vos protagonistes est suivi par la caméra. On passe de vous à l'autre, au ciel, etc. C'est très fébrile. Comme lui.
Oui, je crois que cette vibration, cette idée qu'il n'y a pas de moment naître, il n'y a pas de moment... il n'y a pas des moments qui sont que dans les concrets. Tout va jusqu'au bout. Tout est à la fois hilarant et terrible. Tout est à la fois sordide et d'une certaine manière sublime. Je pense que c'est la vérité du film, c'est la vérité de son personnage principal qui se trouve dans un sort de mélange entre épuisement, violence et vulnérabilité. Qui à la fois est au bout de la révolte et en même temps est au bout de l'écroulement du pleur.
C'est un autoportrait ?
C'est un autoportrait, oui, surtout dans le sens, encore une fois, de ces sentiments que moi-même j'ai éprouvés comment, à force de vous mettre dans toutes sortes de combats qui sont tellement justes, vous trouvez en guerre avec tout le monde, avec les gens dans la rue, avec les rues elles-mêmes, avec les trottoirs, avec les arbres, les oiseaux, les voisins, les spectateurs du cinéma. Évidemment, vous devenez un dragon, vous devenez un monstre.
Mais en même temps, cet homme se calme quand il s'agit d'envoyer des vidéos à sa mère qui se meurt, qui était la vôtre et qui était votre monteuse de films. C'est assez unique dans le cinéma de monter des films avec sa mère.
Oui, enfin, on m'a dit, je me souviens qu'un critique m'a dit, qu'il a proposé d'organiser un jour un festival de gens qui ont monté avec les membres des familles. En fait, il est arrivé à la conclusion que ça sera ma propre rétrospective parce qu'il n'y aura pas d'autres inscrits.
Mais c'est important, c'est ce qui amène de la douceur à ce personnage, voilà. Il se calme quand il s'agit d'envoyer des vidéos et de montrer votre voyage.
Ce film a été, j'ai commencé à l'écrire et 3 semaines après la mort de ma mère. Et je peux juste dire que dans mon téléphone portable, il y a encore les vidéos que je lui ai envoyées du désert. Donc il y a vraiment une sorte de proximité. D'une certaine manière, peut-être tous ces films, c'est une vidéo envoyée à quelqu'un qui ne les verra pas, évidemment.
Et Y, dans le désert, met un casque et écoute Vanessa Paradis. Très beau morceau, Nadav Lapid. Je crois que vous étiez très amoureux de Vanessa Paradis quand vous aviez 13 ans.
Oui, c'est juste. C'est juste. J'étais persuadé qu'on se mariera un jour. Mais rien n'est encore perdu. Hein. On est tous encore là.
Oui,
c'est pas. Oui, en fait, c'est, pour moi, c'est une sorte de morceau qui m'a accompagné. Oui. Et je me souviens que toujours, quand j'écoute ce morceau, j'ai l'impression que tout le monde danse autour de moi, que le monde lui-même danse, et je pense que c'est ça un peu ce qui se passe dans le film. Enfin, dans cette séquence, dans le film, c'est pas que lui qui danse, mais c'est le sable, le soleil, le paysage.
Il est seul dans le désert.
Il est seul dans un désert dansant. Et en général, je pense que le film, il a une dimension d'une presque une sorte de comédie musicale. C'est-à-dire, on parle très souvent de la dimension politique, dure et sombre qui existe, mais je pense que aussi le film, j'ai l'impression, essaye de fêter tous les temps le cinéma avec des chansons, des danses, etc.
Et ça vous permet à nouveau de faire ce que vous faisiez beaucoup dans Synonyme déjà, de filmer un corps en mouvement.
Tout à fait. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans un pays où les corps sont exposés, où les corps sont tous les temps présents, où les corps sont aussi dans un moment politisé par les services militaires, où l'amour et le sexe et la guerre font partie d'une certaine manière dans ce cercle qui traverse les corps. Je ne sais pas, ou parce qu'à l'âge de 6 ans, j'ai regardé 50 fois... Et dans une semaine West Side Story, je suis devenu accro à tout ça. Je ne sais pas quelle est la raison, mais je pense qu'il y a beaucoup du corps et beaucoup de danse aussi.
Vous parlez bien français, vous dites je suis né comme être humain en Israël et une deuxième fois comme cinéaste en France. En France, vous avez découvert le cinéma, dites-vous, comme un objet de discussion, d'échange et de débat.
Oui, enfin, j'ai découvert le cinéma en arrivant à Paris et dans cette époque qui est décrite dans mon film précédent, Synonyme, oui. À travers un ami et cinéphile, alors que moi je connaissais très peu, qui m'a expliqué pour la première fois qu'il y a dans ce monde un metteur en scène et que c'est lui qui décide tout. Donc, je voulais devenir cette personne-là. Et tout à fait, c'est à travers lui que j'ai entendu pour la première fois des mots comme plan séquence, cadrage. Et j'ai commencé à acheter des numéros de cahiers de cinéma sans trop comprendre, et parfois en m'imaginant ce qui est écrit. Mais dès le début, pour moi, c'était évident que les mots dits sur le film peuvent être aussi beaux, aussi essentiels que le film lui-même. Elles sont la suite du film.
Et dernière question, comment peut-on être israélien? C'est une question que vous avez l'air de vous poser dans tous vos films. Comment peut-on être israélien? Vous y répondrez un jour?
Peut-être quand j'aurai la réponse, j'arrêterai de faire des films.
Ouais.
Mais j'imagine que par aller au bout du paradoxe.
continuer, creuser ce sillon à travers ces films enragés. D'ailleurs, on se demande ce qui peut arriver après le genou d'Aed, tellement ce film est révolté. Il va y avoir un calme après.
J'espère bien. Bon, je suis un peu épuisé par ces cris. J'ai l'impression que les décibels sont déjà arrivés au niveau quasi inaudible. Donc c'est ça le moment où il faut commencer à jouer du jazz, peut-être.
D'ailleurs, vous êtes assez calme avec nous ce matin quand vous en parlez.
Oui, c'est toujours étonnant. Oui. Les gens, ils attendent. Je vois presque. Il faut que je commence à faire d'ailleurs des gestes. Oui.
Le boxeur.
Écoutez, il y a encore du temps jusqu'à la fin de l'émission.
Le genou d'Aed sort mercredi prochain à Nadave Lapide. Le synopsis de votre film, à vous Mathieu Amalric, serre-moi fort, est sans doute l'un des plus courts de l'histoire du cinéma. Il tient en une seule phrase. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'ennuie. Qui s'en va, pardon.
Pas mal.
Ah non.
Elle est bien, celle-là.
Bon lapsus.
Oh mon Dieu. Ce sont d'ailleurs les premières images du film.
Elle s'ennuie, donc elle s'en va.
Elle s'ennuie aussi, ouais, c'est vrai.
Ouais. Clarisse, c'est Vicky Krieps qui quitte une maison au petit matin en laissant endormi son mari et ses deux enfants. Elle part en voiture. Tout le reste, ce qui se passe pour de vrai ou dans la tête de votre héroïne, passé, présent et futur, devra s'interpréter. Ce n'est pas racontable pour ne pas briser non pas le suspense, mais le charme du film. C'est très compliqué de parler d'un film sans vraiment le dévoiler, Mathieu Amalric.
Oui, mais c'est vrai que le nerf, c'est pas le secret. Et une des grandes questions, un des sentiments qu'on se disait, est-ce que on pleure plus parce qu'on sait ou parce qu'on ne sait pas.
Oui.
Et nous, quand on tournait, on savait. Et on pleurait. Alors, bon, vous voyez, c'est possible.
Et vous, quand vous avez découvert la pièce, le roman initial, vous avez pleuré beaucoup.
Le texte de Claudine, oui. Oui, il y a un air qui a été touché. Voilà, avec, je sais pas pourquoi.
Avec la volonté, vous, toujours, de dire que ce que je disais, faire un mélo sans violon.
Vraiment, techniquement, oui. Quoi. Oui, s'amuser à voir ce que ça donne. Il y avait le piano.
Oui, sans violon,
qui
mais
était
piano.
Là, ouais. Dans le texte de Claudine, une espèce de crispation entre la mère et sa fille autour d'un instrument de musique qui est souvent dans les familles.
Eh ben, justement, on écoute l'extrait. Elle est en voiture, elle met la cassette de sa fille au piano.
Ping, 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 tu nous casses les oreilles. Tu vas jouer des gammes pendant des années. Allez, joue. C'est bon, joue.
Tu sais jouer. Je savais que tu sais jouer.
Tu l'as vu, maman, vendredi ?
Vendredi.
Elle t'a dit quelque chose ?
Oui. Oui, c'est ça. Tu joues très bien, ma puce. Super.
J'ai inventé cette histoire de course.
Continue.
Tu te prends pour une fée ou une sorcière ? T'es où ?
Il y a trois espaces-temps dans Serre-moi fort, Mathieu Amalric, qui a le temps présent, il y a avant, et il y a un futur...
Une projection.
Filmer en trois temps, c'est quelque chose, ça.
On remet tout à plat avant, dans sa tête, et toute l'équipe, toute la troupe sait. Et après, on peut valser, oui.
Mais par exemple, à vos amis, protégez-moi de mon prochain film, interdisez-moi de faire un film avec une structure éclatée.
Oui, j'ai dit à Yaël Fogiel et Laetitia, les productrices, si je vous envoie pas un truc dans l'ordre.
Mais vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas.
Si, j'y arriverai.
Vous êtes sûr?
J'y arriverai. Oui.
Parce que c'est vrai que vos précédents films sont comme ça aussi, y compris des films de fantômes d'ailleurs.
Je sais. Peut-être juste parce que j'essaie que ça ne puisse pas être autre chose qu'un film. Et à force d'être amoureux de son outil, on veut en utiliser absolument toutes les possibilités, le son, l'image, tout.
Mais c'est intéressant de déconstruire une histoire comme ça, parce qu'elle a été racontée au cinéma des milliers de fois, sauf que vous, vous la déconstruisez et vous la montez façon puzzle, justement.
C'était dans les, c'est l'invention de Claudine Galéa, cette inversion.
Ouais.
Et ensuite, même, il y a une autre tactique. Il s'agissait pas de filmer un chemin de croix ou la douleur d'une femme.
Non.
Mais plutôt son geste d'invention. C'est ça qui me bouleversait le plus. Et lorsque il n'y a plus d'imagination à la fin, eh ben, pas la boum.
L'une des phrases clés, c'est il faut tout faire tout seul.
Ah oui. À un moment, elle dit ça.
Oui.
Alors, c'est drôle. Ça vient de Musil.
L'homme sans qualité.
Oui, c'est pour ça qu'elle s'appelle Clarisse. Dans la pièce de Claudine, elle s'appelle Camille. Clarisse, c'est cette femme dans L'homme sans qualité qui frôle et qui est attirée par la folie et qui à un moment s'en va et qui dit « il faut tout faire tout seul ».
C'est tenu par une actrice incroyable, la luxembourgeoise.
Je sais même pas si c'est une actrice.
Oui, on ne sait pas.
Et vous voulez qu'on l'écoute ?
Oh, oui, avec plaisir.
Vicky Krieps.
Moi, actrice aussi, j'apprends de plus en plus à laisser aller la construction de la réalité que je suis aussi en tant que, par exemple, actrice. Donc je laisse aller mon idée d'actrice que je veux être, vous voyez. Donc si je travaille toujours n'importe avec qui, avec Paul Thomas Anderson c'était comme ça, j'essaie de me vider de tout ce que je sais, de tout ce que je veux, et je deviens totalement vide et juste je suis là, presque bête, presque comme un bébé, et je découvre toutes les choses devant moi comme un miracle. Et avec Mathieu, avec Mia, avec Night Shyamalan, Paul, c'était à chaque fois la même chose, que j'essayais de les suivre purement dans le moment.
Pourtant, on a l'impression que vous marchez différemment des autres, que vous touchez les objets différemment des autres, que vous regardez les gens différemment. Et ça, le metteur en scène vous laisse cette liberté-là.
Je crois que je me prends cette liberté-là. Le jour où quelqu'un vient qui veut me changer, ben, je vais l'envoyer promener.
C'est vrai qu'elle est super inventive, Vicky Krieps, quand je dis qu'elle fait tout différent de tout le monde. Elle a une démarche différente. Enfin, c'est très étonnant. Et vous, quand vous la regardez jouer, vous la laissez faire.
Oui. En proposant un terrain de jeu dans lequel, et pour la narration, nous savons tous ensemble la narration, comment faire passer cette information sans que ça ait l'air d'une information. J'aime bien essayer avec l'équipe avant de chauffer le plan. Donc je le joue. Il s'agissait tout de même qu'elle puisse faire qu'une seule prise. C'était tellement dur ce qu'elle avait à jouer que mon travail c'était que elle puisse ne le faire qu'une fois éventuellement. Donc je le chauffais, j'explorais le plan et je lui racontais juste ce qui m'était arrivé. Je mettais un monsieur à côté de moi au bar. Je me dis tiens, lui m'a tenu chaud. J'étais content qu'il soit là, la télévision. Je me suis, tu vois, voilà, je lui donne tiens le verrou à la porte, je sais pas. Ça m'a fait penser à la cuisine, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Paf. Et c'est parti, oui. Le film est fragmenté, mais c'était des prises d'une demi-heure, souvent.
Alors, il y a plein de détails dans votre film. Justement, vous le disiez, des gros plans sur des petites choses, etc. Comme des indices. Et l'ayant vu deux fois, je trouve ça super intéressant. Et j'ai envie de vous faire écouter Arnaud Desplechin, qui aussi met quelques indices dans ses films.
Vous mettez comme ça des objets qui signifient, qui scintillent, et puis vous cachez pour que ça n'abîme pas la scène, pour que ce soit discret. Et alors à la fin, vous dites, mince, c'est fou, on a mis toutes ces idées qui ne se voient pas. Mais les films repassent, et repassent à la télévision, et repassent. Et vous rendez compte que chaque lettre que vous avez adressée au spectateur, un jour ou l'autre, elle arrive à son terme. Il y a quelqu'un qui l'attrape. Pas 1000 personnes, des fois c'est 100 personnes, 10 personnes, mais ces lettres, elles arrivent. Et donc l'idée de poster comme ça des messages non pas secrets, des messages qui sont là, mais qui sont pas trop mis à jour, quoi, qui sont juste dans l'ombre un peu, ça permet que quand les spectateurs le revoient, qu'ils s'ennuient pas.
Ça vous parle,
ah,
ça?
Ah oui, c'est ça. Et c'est comme des... Oui, moi j'allais dire des trucs sous-cutanés même. C'est des sensations, en fait, en plus comme ce film, si c'est... On croit ce qu'on voit alors qu'on sait que ça n'existe pas. Mais puisqu'on y croit, ça veut dire que c'est vrai. Donc on est en spectateur exactement comme Clarisse. C'était très excitant, même j'aimais qu'il y ait des traces partout. Par exemple, il y a du blanc et de la matière neigeuse partout. Oui. Mais on s'en rend compte, en effet, la deuxième fois.
Oui.
Mais on l'a vu. Mais on a préféré l'oublier. Voilà.
C'est fou, alors, c'est une présence fantomatique, effectivement, parce que Clarisse, on la voit beaucoup toute seule, en voiture, etc. Et puis, elle revient dans la maison, et il y a cette scène un peu folle. Elle assiste à un petit déjeuner de sa famille. Je sais qu'une première fois, elle l'a fait juste en voix, puis après, elle l'a fait en présence, toute seule dans la cuisine. Enfin bref, c'est très compliqué, mais la scène est très claire.
Le téléphone va sonner. Les amis vont passer.
Ta gueule.
Mais ferme-la.
Pourquoi elle parle comme ça?
C'est plus Loé. Tu l'as invité, c'est ça? Normalement.
À 4 heures, on aura faim. On fera un énorme goûter. Montre-moi les photos. La tour Eiffel.
Vous vous souvenez de ça?
Ouais, c'était à Paris.
Quand il a dit ça, c'était à Paris.
Non, stop. Arrête. Oh, ça va. Arrête.
Et le soir, on achètera des pizzas. Il y aura le bain à prendre. Les habits à préparer pour l'école demain. On allumera la cuisine. On boira encore un verre de lait. Et puis la nuit tombera. Et les enfants iront se coucher.
Mathieu Malrigue, il y a de la musique partout dans ce film. Hein.
Oui, oui.
Au piano.
Là, elle était même sur le plateau. Brian Johnston Massacre. Oui. Elle dansait, les enfants et tout. Non, mais là, ça me rappelle le moment du tournage. Vicky était dans une autre pièce. Et cette voix, elle le fait en direct. Arié avait une oreillette, pas les enfants, et elle pouvait lui susurrer des choses. Et donc, Vicky voyait sur un écran ce qu'ils étaient en train de faire. Il était pas prévu qu'elle pleure, si vous voulez, mais c'est en voyant quelque chose qui n'existe pas qu'elle s'est mise à être bouleversée. Voilà. Mais c'est parce que c'est pareil, une prise, c'est deux prises de 25 minutes.
Est-ce que, quand vous entendez Nadav Lapid parler du système israélien de cinéma, etc., est-ce que vous vous sentez, vous, super chanceux d'être cinéaste en France?
Pas forcément.
Non?
Et non, parce que la difficulté, la rage, quelque chose de viscéral, un rapport finalement extrêmement affectif avec la politique, ce que représentent les devoirs d'un État, je crois que ça rend vif et que nous sommes dans une tout de même une mollesse absolue et que la censure molle dont on se rend même pas compte et peut être beaucoup plus insidieuse que tout ce que le cinéma israélien explore quand même de on se dit c'est sans censure quoi, ils y vont à fond.
Nadav Lapid.
Je suis bien d'accord dans le sens peut-être un peu différemment dans le sens, enfin, il y a une phrase que j'adore qui dit que, à peu près, que tous les pays sont mauvais, les miens et les pires. Et donc, je crois que vous, Français, vous pouvez dire exactement la même chose. Enfin, vous êtes bien autorisé de vous sentir des gens qui habitent au bout de l'enfer. Je pense aussi que dans ce sens-là, mon film, finalement, c'est pas un film concret sur la politique israélienne, c'est sur les relations entre l'individu et la société, l'individu et l'État, et ça se passe partout.
Vos deux films vibrants sortent, le vôtre, Nadav Lapid, Le Genou d'Aed, sort mercredi prochain, et le vôtre, Mathieu Amalric, Serre-moi fort, est sorti mercredi, bravo à tous les deux.
Allez les voir, s'il vous plaît.
On se retrouve pour reparler de Belmondo après La femme, le sang de mon prochain.
Je suis le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Peur en toi, allez, dis-le-moi. peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir, je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis le sang de mon prochain.
Te dis rien?
Le Brésil! Le Brésil!
Mais écoute! Mais arrête un peu!
Quel homme vous êtes?
Tu me reconnais?
Non. Mais ça ne fait rien, oublions tout.
Oh, calme-toi!
Vous êtes beau et vous en profitez.
Oh, les vaches, sinon ça bordait, reconnaît plus rien.
Quelle bonne surprise! Une plage déserte, une douce musique, tout ce que j'aime. Oh, merci, monsieur.
Arrête, écoute, écoute, chef. Allez, salaud.
La première et la dernière fois que j'ai vu Belmondo pour de vrai, c'était il y a 3 ans. Passager d'une voiture décapotable dévalant à toute allure la butte Montmartre, cheveux au vent, il était hilar. Cette joie qui irradiait son visage ce jour-là m'a rappelé celle qu'il affichait souvent dans ses films. Cette joie enfantine de jouer, de se marrer en exécutant une énième cascade et cette décontraction, effortless, disent les Anglais. Un adjectif qui lui va si bien à Belmondo, à l'aise partout, chez les auteurs comme dans les productions René Château, eh bien celui qui le réinventa en héros populaire dans les années 80, Laurent.
Devinette. Quelle est la seule star française à avoir joué sous la direction des 3 principales figures de la nouvelle vague, Godard, Truffaut et Chabrol, et pour 6 films au total? Eh bien oui, ne cherchez pas plus loin, c'est bien Jean-Paul Belmondo. Oui, le futur guignolo et autre alpagueur démarra en trombe chez ces trublions du cinéma d'auteur qui désinguaient à tout va la qualité française, incarnée entre autres à l'écran par Gabin, dernière période. Et c'est justement ce même Gabin qui adouba le jeune Bébel sur le tournage de Un singe en hiver. Ni Pierrot fou dynamité et encensé par Louis Aragon, ni l'homme-enfant de La Sirène du Mississippi, ni l'enfant-homme de L'Homme de Rio, ni la profonde mélancolie du bandit Cartouche n'y pourront rien changer. Belmondo sera l'homme qui sourit du cinéma français jusque dans la cour des Invalides, avec l'absence-présence en creux de son alter ego, l'homme qui fait la gueule du cinéma français, Alain Delon. Désormais, Belmondo sera l'as des as partout et toujours, sur une rame de métro en mouvement comme aux commandes d'un hors-bord dévastant un quai de Venise. Mais le corps de Belmondo, comme le corps du roi, sera donc double, habitant le cinéma français et presque seulement le cinéma français. Un corps pour le cinéma d'auteur, un corps pour le cinéma commercial. Ou si vous préférez, un corps pour Léon Morin, prêtre, chez Melville, un corps pour les Morfalous, chez Verneuil. et vogue la légende, au risque de n'incarner que des flics et des voyous, tous sympathiques, en lieu et place du rugueux voleur de Louis Malle. La forêt du box-office triomphant ne doit cependant pas faire oublier l'arbre cinéphile qui fit de Belmondo l'incarnation plus que parfaite de l'escroc Stavisky pour la caméra d'Alain René, et dans un film que l'acteur produisit lui-même en prenant tous les risques jusqu'à l'échec public le plus cuisant. Jeudi, la nation, très opportunément rassemblée, lui a fait ses adieux sur la musique du professionnel, et c'était tout un programme. Il est possible que nos mémoires cinéphiles en retiendront autre chose que les seuls plaisirs coupables du dimanche soir à la télévision. Ce serait même souhaitable, quand on sait que le verbe Belmondo, comme dirait Tarantino, a aussi été conjugué, redisons-le, notamment pour les plus jeunes qu'il découvre aujourd'hui à l'occasion de son décès, par De Sica, Bolognini, Rapneau, De Broca, Truffaut, Chabrol, Godard, Sauté, Melville, tous très manifestement convaincus, eux, d'avoir face à eux bien plus qu'un simple amuseur de haute voltige. La preuve, selon Truffaut, tout de suite.
J'essaie de te décrire comme si tu étais une photo ou une peinture. Tais-toi. Ton visage est un paysage. Tu vois, je suis neutre et impartial. Il y a les deux yeux, deux petits lacs marrons.
Marron vert.
Deux petits lacs marron vert. Ton front, c'est une plaine. Ton nez, petite montagne, petite. Ta bouche, un volcan. Ouvre un peu, j'aime voir tes dents. Non, pas trop. Voilà, comme ça. Tu sais ce qui sort de ta bouche quand t'es méchant? Des crapauds. T'as essayé? Des crapauds. Et des colliers de perles quand t'es gentil. Attends.
J'attends.
Parlons un peu de ton sourire maintenant. Oh non. Bon, celui-là. Ça, c'est celui que tu fais dans la rue et aux commerçants. En donne-moi l'autre. Le vrai. Celui du bonheur. Voilà. C'est ça. Formidable.
C'était Belmondo d'Orléac dans le premier extrait, L'Homme de Rio, et avec sa sœur Catherine Deneuve dans La Sirène du Mississippi. Mathieu Amalric, c'était qui pour vous? C'était qui votre Belmondo à vous?
D'abord, c'était L'Homme de Rio.
Ouais.
Je l'ai découvert comme ça. Je l'ai aimé comme ça. C'est beaucoup plus tard que j'ai su qu'ils avaient été complices comme ça. Et avec... Oui, vu ensuite sa vie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a foutu avec ces jeunes-là, Godard, mais... Et puis, beaucoup plus tard, je vous avoue que j'ai un grand, grand faible. Je suis même assez bouleversé par L'Itinéraire d'un enfant gâté.
Ah oui.
Oui, c'est un film qui me touche beaucoup.
Parce que...
Ben, j'ai l'impression qu'il c'est presque autobiographique de Belmondo. Enfin, et puis, comment il révèle les partenaires, et notamment Richard Anconina.
Oui, sa générosité d'acteur, quoi.
Oui.
Oui. Et vous, Nadav Lapid, vous découvrez donc le cinéma de la Nouvelle Vague, d'ailleurs, quand vous venez en France. Et donc Belmondo doit faire partie de cette bande-là, quand vous les voyez.
Oui, évidemment. Enfin, à bout de souffle, comme je sais pas, 3 billions d'autres citoyens de cette terre, était un film qui m'a secoué, qui d'une certaine manière m'a persuadé de venir s'installer à Paris à l'époque. Oui, et donc il m'a amené même à ces studios-là finalement. Et puis, Rôle est fou, par exemple, était une référence que j'ai montrée à Tom Mercier avant de jouer à Synonyme, alors que je ne montrais jamais de référence aux comédiens.
Oui.
Mais juste cette scène à la baignoire, quand il montre à sa fille les dessins de Velázquez, enfin, je trouve qu'il y a cette... Pour moi, de toute façon, une sorte de légèreté fatale, et ses côtés enfantins, mais déjà tellement connaissance avec la mort. Et peut-être c'est finalement tellement lié. Hein.
C'est très beau ce terme de légèreté fatale à son propos de Belmondo qui est parti cette semaine. On va passer aux sorties de films, Laurent, à commencer par Le braquage du siècle de Ariel Winograd, Argentine 2006, un groupe de cambrioleurs s'apprête à réaliser l'un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages de l'histoire d'Argentine, celui de la Banque de Rio.
Oui, ils ont eu leur spaghiari à eux, parce qu'ils sont passés par le même couloir, c'est-à-dire les égouts, hein, pour vider la banque, et eux, alors ils ont laissé juste un petit message en quittant la banque, parce que c'est une histoire vraie, vous le rappeliez, sans armes ni rancœur, on a fait pleurer les coffres, pas les cœurs. Je trouve que c'est pas mal. C'est une façon Robin des Bois, hein, évidemment, de s'inscrire dans l'immense histoire du banditisme. Mais le film est cette image, c'est un film de braquage. On adore les films de braquage, c'est vrai, parce que voilà, ça va. S'ils sont réussis, bien sûr, mais ça va très vite, ça va très fort. Il y a des moments clés. On perce les coffres, on y arrive, on n'y arrive pas. Ça prend trop de temps. Il faut aller vite. Voilà, les otages. Bon, les armes, les fausses armes. Enfin bref, tout ça est dans le film et très très bien fait, avec un beau rythme. Ça vraiment. Ça peut équivaloir à n'importe quel film américain de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Et puis avec des personnages qui sont évidemment définitivement sympathiques, ne vous inquiétez pas. La morale est sauve à la fin du film, comme on nous l'indique.
La boîte noire de Yann Gosselin, que s'est-il passé dans le vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur, c'est Pierre Ninet, est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe, cette catastrophe aérienne sans précédent, erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste. Il va analyser minutieusement les faits. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement le cinéma, se demande Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou. C'est exactement la question que je me suis posée en regardant La boîte noire de Yann Gosselin. Une bataille, lui répond Samuel Fuller, le contraire de ce film, formaté, qui aimerait loucher du côté des polars parano américains des années 70 et qui se termine comme un boisset de la même époque. Pourtant bien mené, même haletant et très correctement interprété par Pierre Ninet, André Dussolier et consorts. L'enveloppe est là, technique, précise dans son déroulant, il manque juste l'autre voyage intérieur, complexe dans la tête du protagoniste, obsédé par son enquête, comme Gene Hackman dans Conversation secrète. Comment faisait Coppola? Eh bien, Coppola faisait du cinéma. Délicieux de Éric Bénard, c'est sur la création du premier restaurant en France.
Ben oui, quand et comment a-t-on inventé le restaurant en France? C'est voilà une interrogation intéressante qu'on pourrait partager avec François-Régis Gaudry ici sur cette même chaîne. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette question se suffirait à elle-même, y compris pour faire un merveilleux film de fiction, d'autant plus qu'on n'en sait rien en fait concrètement. On sait que c'est dans les alentours de 1760 par là, mais on ne sait pas réellement. Donc le scénariste réalisateur Éric Bénard aurait pu s'en emparer et tout simplement nous raconter son histoire à lui. Or, il invente des personnages. Il fait notamment un personnage féminin joué par Isabelle Carré aux accents modernes, féminins, féministes, qui n'a strictement rien à voir d'autre qu'être un immense anachronisme qui est pas très intéressant et qui est même franchement fabriqué. Pourquoi faire tant de rebondissements là où l'histoire s'imposerait elle-même? Et le tout est malheureusement porté par des images qu'on pense tout droit de sortie d'une pub, vous savez, avec une laitière qu'on voit régulièrement. Alors voilà, on nous promettait une sorte de pré-grande bouffe revigorante, c'est juste un dîner au musée Grévin.
Bon, j'espère que vous allez aimer La nuit des rois de Philippe Lacote dans la Maca d'Abidjan, l'une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, c'est très beau ce sujet, il renoue avec le rituel de roman qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit.
C'est magnifique, ouais. C'est magnifique, c'est Scheherazade dans les bas-fonds, c'est Scheherazade dans l'enfer, et c'est extraordinaire, ça marche très très bien, parce que justement il convoque tout le romanesque Philippe Lacote pour raconter son histoire. Il y a le mélange du jeu théâtral des acteurs, de l'improvisation, des images d'archives, des chorégraphies, du fantastique, tout ça marche très très bien, participe du récit général. Il y a même des allusions à la situation politique abidjanaise et ivoirienne. Alors peut-être qu'on comprend pas tout, nous, vu de notre fenêtre, mais c'est pas grave du tout, parce que franchement, cette façon, alors là, hein, on parlait de convoquer le cinéma, ben le cinéma est convoqué, la narration est convoquée, le romanesque est convoqué avec, et ça fait vraiment un très très beau film. Ça s'appelle La nuit des rois de Philippe Lacote.
Il est sorti mercredi, et il faut bien sûr aller voir Serment à fort de Mathieu Amalric la semaine prochaine, Le genou d'Aède de Nadav Lapid. Il y a trois festivals, il y a l'Étrange Festival jusqu'au 19 septembre, d'ailleurs vos deux films pourrait y figurer. Et ensuite, Laurent.
Le festival Champs-Élysées Film Festival du 14 au 21 septembre sur les Champs-Élysées, ça c'est pour nos auditeurs parisiens, c'est la 10e édition de ce festival qui mêle le cinéma indépendant américain au cinéma indépendant français. Le tout avec 8 films français, 8 films américains pour un jury présidé par Thomas Lilti sur les 4 cinémas des Champs-Élysées.
Et enfin, on a deux cadeaux, on a un petit
une initiative nationale juste, Play It Again Sound, formidable, du 15 au 28 septembre, 300 salles de cinéma, les films du patrimoine, et avec, figurez-vous, une thématique action qui a été retenue depuis un certain temps, et on y reverra L'Homme de Rio, quelle merveille, Le Ciel est à vous, Premier de Cordée, d'Aquin, La Bandera, et aussi avec d'autres films hors programmation, Bigami, d'Ida Lupino, La Ventura, c'est vraiment, il faut y aller parce que c'est l'occasion merveilleuse de découvrir ou de redécouvrir des grands films sur grand écran, c'est ça le Cinoche.
Deux cadeaux, un par invité. On va commencer avec qui?
Nadav Lapid, d'accord. Allez, voilà. On vous offre un film d'Abel Ferrara, tout aussi surexcité que le vôtre, The King of New York.
Le grand film de Ferrara.
Avec Christopher Walken, bien sûr, coffret Blu-ray et 4K chez Carlotta. Très très belle édition, très beau coffret pour ce portrait d'un truand pourchassé par des flics qui deviennent eux-mêmes assez scandaleusement meurtriers. C'est une variation, bien sûr, autour de Scarface, mais c'est bien au-delà de ça. C'est une sorte de poème baroque, noir, mélancolique, absolument réussi d'Abel Ferrara. Je le rappelle, c'est chez Carlotta. Il y a plein de bonus, il y a de l'affiche du film, il y a des photos, enfin bref, voilà.
C'est un film flamboyant tenu par un acteur immense qui s'appelle Christopher Walken.
Merci,
absolument. Et pour vous, Mathieu Amalric, cette Brigade du suicide d'Anthony Mall 1947, tiens, vous le connaissez pas. Alors on est d'autant plus heureux de vous l'offrir.
Moi, le titre anglais.
C'est Timen, le titre anglais, mais c'est une plongée dans l'univers des faux meneur infiltré par des flics aux allures de kamikaze. C'est pour ça que le titre français est pas si mal, la Brigade du suicide, car ces types-là, en infiltrant des faux meneurs, quasiment courent au suicide. C'est un coffret DVD et Blu-ray édité très très bien, comme toujours, par Rimini, avec des bonus et un livre carrément sur le film. C'est vraiment un magnifique film d'Anthony Mann en noir et blanc, un polar somptueux.
Merci à tous les deux, serre-moi fort le genou d'Aed, c'était nos deux films, et c'est la fin de notre film. À la réalisation, Anne Thomas et Claire Destacan, à la préparation Christophe Magère, tandis que la supervision musicale, elle est signée Thierry Dupin. Vous nous retrouvez sur le site en replay, en podcast, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Franceinter.fr.
Au revoir.